Accent d'Europe, Juliette Gerbrand, Anne Cantner.
Bienvenue. Guerre en Ukraine, autonomie vis-à-vis de la Russie, prix de l'électricité et transition climatique, les choix énergétiques sont au cœur des débats européens, et notamment la question du nucléaire. Après de longs débats, le Conseil européen a finalement classé le nucléaire parmi les technologies permettant de lutter contre le réchauffement climatique. L'atome fait son retour.
Aujourd'hui, le nucléaire représente environ 22% de la production d'énergie de l'Union européenne. En 2022, 13 États participaient à cette production qui est très largement dominée par la France.
Et Bruxelles accueille demain jeudi un sommet global sur l'énergie nucléaire. Il est organisé par la Belgique et l'AIEA. Il réunira des États, des industriels et des spécialistes du climat. On en parle avec Jean-Jacques Herry, correspondant à Bruxelles. C'est la première fois qu'un tel sommet est organisé.
Oui, avec 37 pays présents, une quinzaine de membres de l'Union européenne, dont la France, l'un des leaders de l'énergie nucléaire, et puis des pays comme la Chine, les USA, la Grande-Bretagne ou encore l'Arabie Saoudite. Et l'idée, on le voit, c'est de créer et de poser les bases d'une discussion avec la volonté de remettre le thème de l'énergie nucléaire sur le devant de la scène. Alors comment et pourquoi le nucléaire a-t-il bien pu revenir comme ça au centre des débats énergétiques, notamment en Europe? Eh bien, une des raisons, c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences, explique Fouquevin Nguyen. Il est chercheur en politique française et européenne de l'énergie au sein de l'Institut Jacques Delors.
Il y a un regain d'intérêt d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne pour la question du nucléaire, avec une logique qui s'articule ici autour de la souveraineté énergétique. Donc c'est un narratif qui a beaucoup eu le vent en poupe en France suite au premier choc pétrolier par exemple, mais qui permet en réalité d'avoir, à partir du moment où vous vous reposez entre autres sur ce type de technologie, beaucoup plus de prévisibilité pour votre production d'électricité, et ça s'inscrit également dans une logique de lutte contre le changement climatique.
La lutte contre le changement climatique est aussi l'un des arguments brandis, effectivement, puisque le nucléaire, à la différence des énergies fossiles, n'émet pas de CO2, avec l'idée que les énergies renouvelables ne suffiront pas pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est l'objectif du pacte vert européen.
À l'heure où les principales énergies que l'on consomme actuellement sont des énergies fossiles, le pétrole pour votre voiture, le gaz pour vous chauffer, eh bien, la priorité est de décarboner tout cela en passant par de l'électricité. Cette électricité, elle peut être produite à partir d'énergies renouvelables ou à partir de nucléaire, et les deux peuvent être complémentaires.
Complémentaires donc et plus opposés dans un mix énergétique qui se voudrait plus vertueux. C'est donc cela que raconte aujourd'hui le discours dominant sur le nucléaire.
On semble bien loin aujourd'hui du choc provoqué en 2011 par la catastrophe de Fukushima. Comment se traduit ce changement concrètement en Europe, Jean-Jacques ?
Eh bien d'abord par une alliance créée l'année dernière, l'Alliance européenne du nucléaire, qui réunit 14 pays favorables à l'atome et qui pousse pour un cadre européen de développement du nucléaire avec des accords et des financements. Et puis encore plus concrètement, on voit les lignes bouger, explique Fouquevin Nguyen.
Vraisemblablement, certains pays qui sont de nature très anti-nucléaire, on peut penser par exemple à l'Autriche, ne devraient pas infléchir leur position. Par contre, d'autres pays qui avaient par exemple, à l'instar de l'Italie, tenu des référendums, eh bien, nous voyons là-bas que la question éventuelle du nucléaire peut être posée à l'heure actuelle. Et puis d'autres pays qui avaient prévu de sortir du nucléaire ont repoussé cette échéance. On peut penser à la Belgique. Il faudra observer les tendances sur le long terme. Mais très concrètement, ce sommet permet de montrer qu'à très court terme, eh bien, le narratif autour du nucléaire est en train de changer au sein de l'Union européenne.
En toile de fond, il y a aussi la question industrielle et commerciale qui aiguise les appétits. Aujourd'hui, si le nucléaire ne représente que 10% environ de la production énergétique mondiale, investir dans les technologies nucléaires en développement, comme les petits réacteurs SMR, c'est un enjeu à terme. En effet, si on arrive à maîtriser la technologie, peut-être en œuvrant collectivement dans un cadre européen, eh bien ensuite, on pourra l'exporter et faire face aux concurrents russes ou chinois. C'est ce que veulent faire entendre, par exemple, les pays de l'Alliance européenne du nucléaire.
Merci Jean-Jacques Herry, correspondant à Bruxelles.
L'Italie, on vient de l'entendre, fait partie de ces pays où les lignes bougent sur l'énergie. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni n'a cessé de répéter son intérêt pour l'énergie nucléaire.
L'Italie avait abandonné en effet l'atome après la catastrophe de Tchernobyl. 80% des Italiens s'étaient prononcés contre. Mais la récente crise énergétique a remis le sujet au goût du jour. Matteo Salvini promet que la première centrale sera ouverte dès 2032 à Milan, dans le nord du pays. Des annonces qui sont loin de convaincre, notamment près de Turin, où se trouvait la plus grande centrale nucléaire du pays. C'est un reportage de Cécile Debarge.
Depuis le centre-ville de Trino, il faut parcourir plusieurs kilomètres sur une petite route nationale, se retrouver au milieu des champs, puis l'apercevoir au bout d'une grande allée protégée par des barrières automatiques. La centrale nucléaire Enrico Fermi est toujours là. De l'extérieur, rien n'a bougé depuis qu'elle a cessé son activité en 1987. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux de l'association de protection de l'environnement Legambiente, Giampiero Godio profite d'un appel vidéo aux militants pour retracer l'histoire de la centrale.
L'Italie consomme 1 milliard de kilowattheures par jour. La centrale de Trino en a produit 27 milliards. Elle a donc assuré l'autonomie de l'Italie pendant 27 jours. Et en contrepartie, elle laisse sur place une énorme quantité de matière radioactive.
Les quatre centrales nucléaires italiennes ont cessé leur activité dans la foulée du référendum de 1987. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ont été fermées ou mises hors service, explique Giancarlo Godio, qui est le responsable des questions d'énergie pour Legambiente dans le Piémont.
Désactiver, ça suppose qu'un site a été vidé de son matériau radioactif. Aucun des sites n'a été vidé, ne serait-ce que d'un becquerel de contenu radioactif. Au mieux, comme à Trino, on a déplacé le matériau radioactif à l'intérieur même du site pour le mettre à un endroit plus approprié qu'un autre.
C'est le dossier très épineux que doit gérer l'Italie avant même de songer à relancer le nucléaire, s'occuper des déchets radioactifs produits pendant les 20 ans au cours desquels ces centrales ont fourni de l'énergie nucléaire. Le professeur Angelo Tartaglia fait partie de l'Institut d'astrophysique. Il a enseigné la physique au sein du département des sciences appliquées de l'École polytechnique de Turin et détaille ce que sont devenus ces déchets radioactifs.
Une partie de ces combustibles nucléaires usagés se trouve dans des piscines de refroidissement au sein des centrales et une autre a été envoyée à l'étranger pour y être traitée. C'est le cas pour la centrale de Trino. Une partie des déchets est en France et une autre en Angleterre.
Mais même si le matériau radioactif est envoyé à l'étranger, le problème reste entier.
Le contrat prévoit que ces combustibles nucléaires usagés soient traités, mais qu'à la fin du processus, les déchets restants soient renvoyés en Italie. Où donc les mettra-t-on ? Ça n'a pas encore été décidé.
En 36 ans, l'Italie n'a toujours pas décidé où serait implanté son futur dépôt national de déchets radioactifs. 28 critères ont été retenus pour déterminer à quel endroit il pourrait être construit, détaille Fausto Cognasso. Il est membre de Legambiente à Trino.
Ce lieu doit être extrêmement sûr d'un point de vue géologique, hydrologique, sismique, etc. Et il a déjà été établi que ce n'était pas le cas de Trino.
À Trino, la présence de nappes phréatiques trop proches de la surface de la Terre a définitivement éliminé la ville des sites retenus. Mais si Fausto Cognasso fait cette précision, c'est que le maire de Trino a présenté en janvier 2024 une candidature spontanée pour que sa ville accueille le dépôt national des déchets radioactifs. C'est la seule candidature spontanée d'Italie. Or, 51 sites ont déjà été retenus en Sicile, en Sardaigne, en Basilicata, dans les Pouilles, dans le Piémont et dans le Lazio. Il est prévu que le site définitif soit annoncé en 2027 pour une ouverture effective en 2036, soit près de 50 ans après le référendum qui a décidé de la fin du nucléaire en Italie. Fausto Cognasso.
Nous n'avons même pas une véritable filière nucléaire. Et on voudrait non seulement relancer cette industrie, mais en plus avec du petit nucléaire. Donc en éparpillant sur le territoire des mini-centrales qui seront probablement aux mains de groupes privés, comme cela semble se profiler. Donc sans même un contrôle public, sans un cadre raisonné.
Certains politiques ont aussi parlé de l'éventualité de rouvrir les anciennes centrales, une option peu intéressante selon le professeur Angelo Tartaglia.
Ça coûte très cher et puis leur durée de vie serait très limitée car elles ont déjà servi auparavant. Donc économiquement parlant, ça n'aurait pas d'intérêt.
Pour ce physicien, les véritables alternatives reposent sur les sources d'énergie renouvelables, avec une limite toutefois.
Il faut commencer à penser à vivre sans croissance. Nous ici, on a tout ce qu'il faut en abondance. Il faut qu'on se demande de quoi on a vraiment besoin pour bien vivre. Car il n'existe aucune source d'énergie qui puisse soutenir une croissance illimitée. Point barre.
L'Italie produit actuellement près de 87% de l'énergie électrique qu'elle consomme. Un chiffre plutôt stable ces dernières années.
Ah, as-tu compris l'importance de savoir le français ? Dis-le-moi. Non ? Je t'en prie, vois-tu ? Oh, je ne sais, c'est-à-dire ? Ah, je suis l'amour, hein ? Une affaire de cœur. Vas-y. Et viens, ça y est.
Mais quoi qu'en dise la chanson, le français ne serait plus la langue la plus romantique, Juliette. C'est l'italien qui aurait ravi la vedette à notre belle langue de Molière et de Bardot. C'est ce que dit une étude du site d'apprentissage de langue Babel.
Absolument, mais plus sérieusement, Anne, l'usage du français recule face à l'anglais au sein des organisations internationales, y compris à Bruxelles, dans les institutions européennes. Mais il continue à progresser dans le monde et surtout, bien sûr, en Afrique. Il reste présent sur tous les continents, notamment grâce au maillage des instituts et des lycées français. Et même sur la petite île anglophone de Chypre, à l'extrême est de l'Union européenne, le français tente de se faire une place au soleil. Et pour fêter la journée mondiale de la francophonie, Joël Bronner s'est rendu à Nicosie. Reportage.
Monsieur qui s'est installé sur le fauteuil.
Le monsieur en question, c'est Tigre, le nom du chat qui prend ses aises dans la librairie francophone de Nicosie. La boîte à lire fête cette année ses 42 ans d'existence, et c'est dans cette tanière de livres que nous démarrons notre excursion linguistique. La maîtresse de Tigre, à la tête de ce commerce culturel depuis son ouverture, c'est Anna Achilleos, une chypriote grecque qui a grandi au Liban, où elle parlait français à l'école et grec à la maison. Pour sa clientèle, elle peut notamment compter sur le vivier des quelques 400 élèves de l'école franco-hellénique de Nicosie.
Moi, j'ai mes auteurs préférés, mais malheureusement, ce ne sont pas des auteurs qui se vendent. J'étais toujours déçue dans ce domaine parce que ce que j'aimais le plus, je n'arrivais pas à le vendre. Un de mes favoris, c'était La Mare au Diable, de George Sand. Je ne sais pas si j'en ai vendu un ou deux exemplaires dans les 42 ans où on est là. Par contre, Amélie Nothomb, on la vend facilement.
La libraire constate que ce sont les séries et le cinéma qui favorisent actuellement ses meilleures ventes de livres. Elle dit n'avoir jamais vendu autant d'Arsène Lupin que pendant le Covid, en parallèle du succès de Lupin sur Netflix. Et après deux films sortis l'an dernier, ce sont à présent les Trois Mousquetaires qui bénéficient chez elle d'un regain de lecture.
Des fois, j'ai fait des parcours dans la ville pour les touristes.
La musique aussi peut être un vecteur de diffusion de la langue française, notamment par les ondes. Marina Kériakou, architecte trentenaire, a étudié à Strasbourg.
À l'université, j'écoutais beaucoup la radio pour apprendre la langue. Et donc, je connais un peu du pop français. Donc, c'est un peu mix que j'aime en musique française, mais je préfère la musique la plus classique, type Edith Piaf et tout ça. Milord. On faisait des voyages d'études quand j'étais à l'école d'architecture et on était à Venise. Il y avait cette chanson et toutes mes amies de l'école qui étaient français, ils étaient très excités d'être en Italie et d'avoir Milord dans un bar où on était et tout le monde chantait. Et moi, je ne connaissais pas la chanson, donc je leur demandais le titre et après je suis allée le chercher et j'ai appris la chanson. Donc il y a une histoire, c'est pour ça que j'aime.
Avant de faire des études en France et de rejoindre la foule des amateurs de Piaf, Marina Kériakou a appris le français à l'école. Une bonne raison à cela, à Chypre, l'étude du français doit obligatoirement être proposée dans le secondaire. En dehors de l'anglais, ultra dominant, les élèves restent libres d'opter pour différentes langues étrangères, mais l'option de la langue de Molière existe donc systématiquement. Ioannis Kasoulides, ex-ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, a lui-même étudié à Lyon.
Chypre faisait partie de l'Empire britannique, était une colonie britannique, donc tout le monde, presque tout le monde, parle anglais après leur langue maternelle. Le français, c'est la seconde langue étrangère. Et il y en a beaucoup de diplômés des universités françaises, comme moi-même.
Dans un café de la vieille ville de Nicosie, nous retrouvons Efi Tsangaridou. Une autre chypriote diplômée des facs françaises, comme environ 200 étudiants par an ces dernières années. Attirée, dit-elle, par la qualité et la gratuité du système universitaire français, la quadragénaire est passée par la ville de Tours. L'expérience de celle qui est aujourd'hui enseignante à l'école franco-chypriote prouve que les crises et les événements historiques aussi peuvent avoir une influence directe sur la francophonie. Elle fait notamment allusion à l'explosion survenue dans le port de Beyrouth en août 2020.
Il y a une grande communauté libanaise qui s'est installée à Chypre récemment, après l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth, et qui sont aussi très actives dans les associations francophones de Chypre. C'est comme ça que j'ai eu mon poste. En urgence, ils cherchaient quelqu'un. Moi, j'étais en Géorgie et j'ai déménagé. Au bout de 2 jours, j'ai déménagé à Chypre pour prendre une classe. Et ils sont arrivés massivement il y a 3 ans.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières.
Nanana de bord de mer, dans mon jardin d'hiver.
Quittons la cour de l'école pour conclure côté jardin avec une autre des chansons préférées de l'architecte Marina Kériakou, qui, comme les plus de 80 000 francophones recensés ici, participe au dynamisme du français à Chypre en toute saison.
Goblin mode, when you leave the door open while you're sitting there on the commode, that's goblin mode. When you go back again to the bag of chips and reload, that's goblin mode.
Goblin mode, c'est l'expression qu'on décrypte aujourd'hui dans la chronique en un mot, une expression plébiscitée par les Britanniques et qui a fait son entrée dans le très sérieux dictionnaire Oxford.
Bien se tenir, soigner son apparence, être sociable comme il faut, ce serait de moins en moins en vogue chez les jeunes. L'important, c'est plutôt d'être à l'aise et de ne pas trop s'en faire, d'où le succès de cette expression. En français, on dirait se mettre en mode gobelin ou lutin des bois. Marie Billon nous en dit plus.
Alors, c'est très visuel comme expression. Donc, imaginez-vous un ado, une ado dans sa chambre, le sol jonché d'habits, les tiroirs à moitié ouverts avec des chaussettes qui en débordent, une table de bureau mal rangée et l'ado avachi sur sa chaise, mal fagoté, pas coiffé, certainement pas en train de travailler, probablement en train de poster sur les réseaux sociaux qu'il ou elle est en goblin mode aujourd'hui. Tony Thorne est linguiste spécialiste de l'argot.
Goblin mode means...
Ça veut dire se comporter d'une manière qui rejette les attentes de la société, même les plus basiques. Être propre, en bonne santé, bien se présenter. Quand on est en mode goblin, on est paresseux, antisocial, introverti, on s'écoute trop, on est goinfre et sale. Tout cela a l'air très négatif, mais bien sûr, il y a de l'ironie là-dedans.
C'est un mot qui est apparu en 2022 à la sortie de la pandémie et des confinements à répétition, et ce n'est pas un hasard. On venait de passer des mois et des mois chez soi à prendre moins soin de son apparence, et ça a des bons côtés, donc ça a été érigé en principe en esthétique, dit même Tony Thorne.
D'où vient l'usage de ce mot à l'origine, Marie ?
Alors en fait, même si l'expression est désormais dans le fameux dictionnaire d'Oxford, elle est d'origine américaine, dit Tony Thorne.
Goblin, c'est souvent le surnom qu'on donne à quelqu'un qui est antisocial, hostile, un peu sale et introverti. Mais ça ne veut pas dire la même chose en anglais britannique. Là, les goblins sont des créatures intelligentes et amicales, mais très coquines, qui se cachent chez vous, vous piquent votre nourriture et vous mettent le bazar. Il y a un côté espiègle, ce n'est pas la même connotation.
En fait, cette expression a eu tellement de succès au sortir de la pandémie que même les adultes savent ce que ça veut dire, en gros. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ces expressions inventées et étiquetées par la génération Z.
La pandémie, ça commence quand même à remonter un peu loin. L'expression est toujours en vogue, c'est étonnant.
Alors, vous avez raison, ce genre d'expression a une date de péremption plus ou moins longue, et même si on la rencontre encore assez souvent dans les médias classiques, les jeunes sur les réseaux sociaux, eux, sont passés à autre chose, dit Tony Thorne.
Comme toutes ces vibes, ces esthétiques de la génération Z, ce n'était pas une expression faite pour durer. Ce sont des modes très brèves. Les gens qui veulent être cool, les tendances et qui accordent beaucoup d'importance à ces choses sur TikTok n'utilisent plus cette expression.
Voilà, donc en gros, ce sont les vieux, les has-been, hein, qui utilisent Goblin Mode encore aujourd'hui. En quelques mois, le Goblin Mode est passé de la génération Z à la génération Y.
Marie Billon, correspondante à Londres. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez le podcast européen de RFI à tout moment sur l'appli Pure Radio. À demain, même heure, même fréquence.